Allons au fait par Régis Debray. L'histoire mise à nu.
L'histoire de l'art et ses artifices. Si l'œuvre d'art a pour singularité de pouvoir échapper à son temps, et si aujourd'hui la société produit de l'art à foison et à temps plein, on doit se demander de quoi au juste on fait l'histoire quand on fait l'histoire de l'art. Mais aussi, on peut se demander ce qu'il en coûte de ne pas en faire du tout. Mon grand témoin ici sera André Malraux, 1901-1976. Nous célébrons tous à l'envi l'histoire de l'art. Signons des pétitions pour élargir son étude à l'école, nous vantons ses instituts, nous admirons ses arbitres et ses maîtres de légende, Gombrich, Chastel, Rosalind Krauss, Jean Clair et d'autres. Et nous faisons bien, car c'est une discipline sérieuse et passionnante. Mais est-ce qu'on peut réunir ces deux mots, art et histoire, sans se poser quelques questions? Rien n'est moins sûr. Et d'abord, de quoi fait-on l'histoire quand on fait de l'histoire de l'art? De son présent, inévitablement, pas moyen d'y échapper. J'opère un tri dans les trésors du passé, avec les lunettes, avec la myopie de mon époque. Ce n'est pas propre à cette branche un peu spéciale, et tous les historiens peuvent là-dessus se renvoyer la balle. Une histoire de la philosophie, par exemple, rédigée en 1900, nous en dira plus sur la Sorbonne de la Belle Époque que sur les pré-socratiques, qui intéressaient alors fort peu. Giotto et Van Eyck n'intéressaient pas non plus Baudelaire, critique d'art, car les primitifs italiens et flamands n'étaient pas encore inscrits au tableau d'honneur des beaux-arts. Pour l'auteur des Fleurs du Mal, ni le chapiteau roman ni l'icône byzantine ne valaient un regard. Soit, c'était hier, oui, mais regardez aujourd'hui. Pour Malraux, l'auteur du Musée imaginaire, qui en fait la remarque, Cartier-Bresson n'existe pas non plus. Ni Brunelleschi, la coupole de Florence, ni Mies van der Rohe, le directeur du Bauhaus d'avant-garde. L'architecture ne l'intéresse pas. Aux yeux de Malraux, la photographie vaut pour ce qu'elle permet, la reproduction des œuvres d'art. Et c'est vrai que la photo a engendré l'art roman. Les chapiteaux et les tympans des églises, par exemple l'Ève allongée à Autun. Mais la photo n'est pas un art. D'où le paradoxe qu'est l'absence du daguerréotype et de Sol Lewitt dans une réflexion sur l'art entièrement fondée sur la photo, au point d'exclure également l'architecture au motif, dit l'auteur, qu'il n'y a pas de bonne photo d'architecture. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Bon, nul ne peut sauter par-dessus son temps, ni vous ni moi, et pas même les préhistoriens. C'est un tourniquet sans fin. Mais tout de même, enfourné dans un même sac, sous le nom par exemple de sculpture, un colossus grec, une vierge noire, un rodin, une machine de Tingeli et un bovin dans le formol signé Damien Hirst, toutes choses qui n'ont rien d'autre en commun que d'être des volumes dans l'espace, quand en réalité ils n'appartiennent pas à la même constellation, est-ce qu'on peut vraiment faire cela? L'art, dont je donnerai la définition si vous voulez, l'art qui est le beau fait exprès, arrive dans l'univers des formes après que la foi en Dieu s'en est allée. Une statue de Shiva n'est pas une œuvre d'art pour un hindouiste pratiquant comme l'ange de Reims n'en était pas une pour le paysan médiéval. Et comme une foi est vive quand la communauté qui la porte est bien vivante, il faut que naisse l'individu pour que le mot « art » fasse sens. C'est-à-dire chez nous, à la Renaissance. Au nom de quoi aligner un ustensile aux vertus magiques, un signe sacramentel, un objet de délectation, une machine pour rire et un actif financier? Au nom de quoi, sinon en vertu d'une certaine léthargie intellectuelle? Alors sans aller jusqu'à penser comme Valéry que dans un musée d'art, chaque pièce exhibée, je cite, « réclame en vain la mort des autres », chacune mériterait un lieu à part pour vivre sa propre vie, et non un seul et même entrepôt appelé musée. Alors de quoi fait-on l'histoire de l'art? Quand on en fait, eh ben on fait l'histoire de ce que chaque époque loge sous ce terme, puisque c'est le regardeur qui fait le tableau. Et en fait, cela relève d'une histoire de l'œil en Occident, comme celle que j'ai tenté d'envier Mort de Limard. Oui, parce qu'il faudrait pouvoir deviner ce que pouvait bien regarder un laboureur auvergnat du XIIe siècle dans une vierge assise. Il faudrait pouvoir comprendre pourquoi un empereur chinois a pu demander un jour qu'on efface une cascade peinte à fresque sur le mur de sa chambre, parce que cette fresque l'empêchait de dormir. Peut-on vraiment mettre sous une même enseigne, pour les arts visuels, la peinture, la gravure, la BD, le jeu vidéo, le tag, le graphe, etc. Peut-on placer une collection de tire-bouchons sous le même nom que celui de tableaux et de sculptures? Parce que il y a des musées du doudou et des musées du bouton. Et il devrait y avoir d'ailleurs des musées, puisque l'exposition d'art elle-même est devenue une œuvre d'art. En tout cas, il faudra prévoir des extensions du musée dès aujourd'hui, parce que le système des beaux-arts recule sans cesse ses murs, et il fait bien. Il fait bien parce que il n'y a plus de cloison entre la série télévisée et le cinéma d'auteur. La première ayant rejoint le second, qu'avait déjà rejoint le film publicitaire, qui peut être un bon décès pour les auteurs. De même façon que le polar et la science-fiction, disons si Simenon et Tolkien, ont rejoint la grande littérature et les spectacles de danse, le grand art dramatique. Autrement dit, vous voyez, les beaux-arts se revitalisent par leur marge au fur et à mesure que le centre voit vieillir ses codes et sa clientèle. La stratégie de survie du grand art, comme on dit, dont les sanctuaires se vident, elle est celle de toutes les académies. Elle consiste à adouber le petit rouspéteur surgissant sur sa gauche avec un « tu me refiles ton public et je te flanque la Légion d'honneur ». « Tu m'ouvres ta clientèle, je t'ouvre mes salles d'art et d'essai ». Gagnant, gagnant. Alors au-delà de ces bisbilles et péripéties, l'histoire de l'art a quelque chose de plus profondément paradoxal. Parce qu'au fond, elle mêle deux registres qui ne sont pas du même ordre. L'histoire et l'art. Pour moi, disait Picasso, il n'y a ni passé ni futur dans l'art. Alors pourquoi s'acharner à retracer la succession des styles, des écoles, des codes de représentation qui nous mènent de rupture en rupture, disons de la grotte Chauvet jusqu'au palais de Tokyo, si l'art, c'est cela qu'aucune chronologie ne peut attraper dans ses filets. Et si elle le pouvait, les œuvres que nous convenons d'admirer ne serait pas au musée d'Orsay ni à l'Orangerie, mais à celui des arts et métiers, ou au musée des civilisations de Marseille. Parce que nous avons transformé en sculpture un crucifix roman qui fut à sa naissance un acte de foi dans le Christ Sauveur et qui n'appelle plus aujourd'hui un signe de croix, mais un œil froid d'expert. L'art occidental ne cesse de faire du neuf, c'est même sa dernière et ultime qualité, et c'est peut-être une terrible servitude, comme on le verra bientôt. Mais notre monde déchristianisé n'a pas jeté l'art chrétien aux oubliettes. Il regarde d'un autre œil la Pietà d'Avignon, 1455, mais le fait est qu'il la regarde encore et qu'il la regardera demain autrement. Le moulin à vent, produit de son temps, disparaît avec lui. La vue d'un moulin hollandais par Jonkin ou Van Gogh est également fille de son temps, mais ce tableau fait toujours partie d'une autre. L'art nous atteint, dit Malraux, dans un double temps qui n'appartient qu'à lui, celui de son auteur et le nôtre. Et c'est là toute la différence, si vous voulez. La télé couleur, ça périme la télé noir et blanc, comme le tracteur a périmé la charrue avec son mancheron et son déversoir. Mais Marcel Duchamp ne périme pas Cézanne, qui ne périme pas Cimabue. Une cotte de maille est démodée, mais pas le sourire de l'ange de Reims, qui a le même âge et qui n'a rien perdu, si j'ose dire, de son intemporalité. Et s'il y a des œuvres d'art novatrices, il n'y en a jamais de définitivement vieillottes. Les pompiers eux-mêmes ont rajeuni dernièrement. Salvador Dali a beaucoup fait pour eux. Et ils s'exposent au MoMA de New York. Autrement dit, l'historien arpente là un champ de fouilles où la datation n'a pas le dernier mot et dont chaque vestige peut nous donner le vertige. Dans la grotte Chauvet, par exemple, ce coffre-fort géologique où l'or du temps a pu s'entreposer par pur hasard, un glissement de terrain. Eh bien, il suffit d'un pinceau de lumière électrique pour nous faire basculer dans la préhistoire. En une seconde, 35 000 années s'abolissent sous notre regard et l'aura, Benjamin nommait ainsi l'unique apparition d'un lointain, l'aura nous saisit à la gorge, elle se fait proximité. Cette main négative, à l'auriculaire curieusement tordu sur les parois de la grotte, je pourrais la saisir comme celle d'un alter ego retrouvé, comme, disons, mon cousin de Cro-Magnon. D'où, vous voyez, l'inanité du schéma progressiste dans l'univers des formes, où un crayonné sur le vif, 30 000 ans avant notre ère, peut nous paraître plus moderne qu'un léché académique d'aujourd'hui. Voilà. Qu'ils soient poètes, peintres ou musiciens, les artistes sont dispensés de millésimes. En quoi d'ailleurs ils nous rendent plus heureux que les lettres d'amour fanées que nous lèguent nos chroniqueurs, frappées au front de l'étoile grise du périssable et qu'on peut épingler sur l'agenda comme un papillon dans son boîtier. Il y a une histoire de l'œil, oui. Mais l'échelle des valeurs esthétiques n'est pas indexée sur l'ordre d'apparition. Tout objet technique sera tôt ou tard frappé d'anachronisme. Mais l'œuvre d'art n'appartient à l'histoire que par ses procédés de fabrication. C'est une aventure en constant renouvellement parce qu'elle n'est jamais définitive et qu'on ne peut pas programmer ses métamorphoses. Oui, l'œuvre d'art a son histoire après, pas moins qu'avant. Disons que le postulat d'Euclide non plus n'a pas vieilli depuis son apparition au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais il est resté ce qu'il est et il ne changera plus. Mais notre Vénus de Milo n'est plus la Vénus de Milo de ses contemporains, ce qui ne l'empêche pas d'être toujours là, parmi nous. Avec nous. Et je citerai Malraux, l'histoire proclame que les styles passent et dédaigne que le style demeure. Eh bien, c'est justement pourquoi l'auteur de La psychologie de l'art a estimé nécessaire de se débarrasser de l'histoire de l'art pour retrouver la vérité de l'art. Retrouver la vérité de l'art, ça veut dire rechercher ce qui demeure et pourquoi cela demeure. Et quand on recherche cela, on va au vif du sujet, quitte à se faire renvoyer dans les cordes par les historiens. Oui, les professionnels de la profession ou les professeurs d'esthétique à l'université ont vu dans cette tentative d'arracher l'art à la contrainte des datations, un scénique railway fantaisiste, avec télescopage, carambolage et dévergondage. Les écrits sur l'art du romancier de la condition humaine sont la part maudite de son œuvre, et il n'est pas pour rien dans cette non-réception à l'université ou dans cet accueil un peu assassin ou boudeur. Je me demande même si ce n'était pas là son destin à Malraux, je veux dire son caractère, puisque le destin, comme disait je ne sais plus qui, Hegel je crois, c'est soi-même comme ennemi. Et oui, de l'essayiste un peu dandy de la tentation de l'Occident, son ami Drieu La Rochelle disait dans les années 1920 « des éclairs et de la fumée ». C'est bien vu, hein. Parce que, quand vous lisez Malraux, vous avez un va-et-vient entre l'éblouissement par l'éclair et l'asphyxie par la fumée. C'est toujours une malchance d'être trop érudit pour les littéraires et trop littéraire pour les érudits. C'est une position un peu inconfortable, que notre ami a encore aggravée par des accès de kitsch cosmolyrique, si je puis dire. Vous savez, la main tremblante dans le crépuscule, le chant des constellations, enfin, vous voyez, la voix pathétique. Et puis, un tour du monde par page, ça peut donner le tournis. Mais il vous répondrait, ou si je peux répondre à sa place, qu'un esthète digne de ce nom n'a que faire de l'histoire et de la géographie des formes, aussi peu qu'un amoureux plein de désirs n'a que faire d'un précis d'anatomie ou d'une histoire de la sexualité. Alors cet allègement, cette épuration de l'œuvre, délestée de ses circonstances, offerte à des rencontres inspirées, et qui n'ont pas besoin d'être informées d'ailleurs pour l'être inspirées, eh bien, elle a permis au ministre de la Culture du général de Gaulle de concevoir une nouvelle religion de l'art, sans prononcer le mot peut-être. Et ce n'est pas la première. Schiller et les romantiques allemands aussi se sont essayés à la religion en faisant de l'artiste un prophète ou un mage. Mais celle de Malraux était encore plus ambitieuse et elle se voulait démocratique. Alors, une religion, qu'est-ce que c'est? Une religion athée, comme les autres, c'est une réponse à l'angoisse du néant. Et l'art ici, c'est la présence dans la vie de ce qui devrait appartenir à la mort. Le propre d'une transcendance religieuse, c'est de lutter contre un diable, qui est généralement la mort. Et le diable, dans ce que je vois chez Malraux comme un néo-bouddhisme plastique, le diable, c'est le chronomètre. Et quand on a compris ça, on comprend mieux le déni de l'histoire chez un auteur pour qui la destination de l'art, s'affranchir du temps, elle n'est pas esthétique. Et on ne s'étonne plus qu'il ait pu voir dans nos musées les ultimes sanctuaires d'une époque dépourvue de sanctuaires. On comprend qu'il ait pu voir dans les musées des temples où seraient présentés au public, non l'épine sacrée ou le suaire ou le clou de la crucifixion, mais tel Goya, tel Rembrandt ou tel Rouault. Et il est vrai que les musées se sont chez nous remplis au fur et à mesure que les églises se sont vidées. Mais enfin, on ne peut pas croire pour autant que le public qui allait à la messe aille aujourd'hui au Grand Palais adorer l'Éternel. Il y va pour tuer le temps, hein, mais pas dans le sens auquel Malraux pensait. Lui, il pensait un peu, comme disait le surréaliste, « Pou qui peut pou n'est plus pou ». Le surréaliste allait se suicider. « L'homme est un néant capable de Dieu », professait avant lui un mystique, le cardinal Bérulle, qui a fondé l'ordre de l'oratoire. Malraux, un mystique sans Dieu, un charismatique sans la grâce, estimait qu'un néant capable d'opposer au fil inconstant des jours des formes sorties de ses mains et promises à une très longue et imprévisible vie, eh bien il pensait que ce néant n'était pas tout à fait un néant. On a un peu envie de lui donner raison, n'est-ce pas? Mais force est de reconnaître que de cette méditation, aucun ordre international et laïque n'est sorti, autre que l'international de l'argent. Oui, le musée imaginaire de Malraux, c'est un temple de papier, sans mur et sans adresse, où sont venus s'entreposer et dialoguer des trésors de partout, et il y a surabondance. Un badaud du XXe siècle a sous les yeux 100 fois, 1000 fois plus de chefs-d'œuvre que n'a pu en voir un critique ou un historien d'art du XIXe, sans parler du badaud. Reste à savoir dans quelle sorte de temporalité cet espace de papier nous fait pénétrer. D'abord, on n'y voit pas des originaux, hein, mais des reproductions. Et plus encore que les simèzes neutres et toutes blanches de nos espaces classiques d'exposition, la photo, elle met les œuvres hors fonction et hors contexte. Elle les déleste de leurs attributs physiques. Elle les spiritualise, si vous voulez, en les dépouillant de leur caractère propre. La photo, par exemple, ça enlève le cadre des tableaux. Vous savez, cette dorure pâtissière qui reliait le tableau au monde profane des palais et des fastes, pour les faire flotter à travers un éther un peu uniforme, spectral, débranché, plus propice à des envols de concepts et de songes qu'à des examens délectables et patients. Cette désincorporation par la photo, elle permet sans doute toutes les combinatoires, et on sait à quel point Malraux, pour qui goûter c'est toujours comparer, à quel point le cinéaste en lui avait le génie de l'analogie, du court-circuit et du tête-à-queue. Oui, il avait, notre cinéaste, un sens inné du montage et du collage. Alors les conservateurs de musées, pas tous, mais la plupart, ont protesté. Parce qu'eux sont attachés à la matérialité et à la singularité des œuvres du fonds patrimonial dont ils ont la garde. Et ils ont accusé volontiers notre magicien ministériel de vouloir faire son cinéma sur le dos des œuvres. Et c'est vrai qu'on est conduit à se demander si cet espace de réconciliation finale, qu'est le musée imaginaire, cette sorte d'embrassons-nous Folleville des œuvres de tous les temps, n'est pas un tour de prestidigitation, disons, technologique. Un subterfuge né d'un procédé de reproduction, la photographie, propice à l'escamotage des contingences de temps et de lieu. Enfin, soyons justes, cela dit, tout en récusant la vision réaliste de l'art comme simple copie du réel, Malraux a tout de même eu le souci de périodiser sa fresque. Il a fait de l'histoire, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il a construit une chronologie en trois temps. Il y a toujours trois temps, vous savez, dans une culture faite au moule de la Sainte Trinité, du rythme ternaire, des ogives trilobées et des dissertations en trois parties. D'où ici aussi trois moments. Trois moments dans le musée imaginaire. Le sacré oriental d'abord, et puis le divin grec, et enfin l'art moderne. Alors, le sacré oriental, c'est le surnaturel des débuts, quand l'art rend sensible les puissances surnaturelles, le mystère des grandes forces cosmiques par la mise au jour d'un sacré latent. Puis vient l'irréel de l'idéalisation occidentale, quand l'art figure un homme et un monde plus beau que nature, mais un monde dont nous portons l'idée en nous. C'est un peu, si vous voulez, du divin, mais du divin dédivinisé, du divin humanisé. Et puis enfin, l'intemporel, troisième et dernier temps, qui est le temps de la création libre et sans modèle extérieur, modèle naturel ou transcendant, qui est à lui-même sa propre fin, si vous voulez. Et ça, bon, c'est l'art moderne. Jusqu'à l'ultime point d'orgue, qui termine le musée imaginaire et qui dit « L'intemporel n'est pas éternel ». Et c'est vrai. Quand vous voyez que le Louvre invite des plasticiens contemporains à réanimer ses collections permanentes, antiquité babylonienne inclus, en y injectant jusqu'à des poupées gonflables ou du Walt Disney pour conquérir de nouveaux publics, oui, vous dites oui, l'intemporel n'est pas éternel, et qu'il y aurait donc un chapitre après l'intemporel, un chapitre possible, un dernier chapitre à écrire pour solde de tout compte et qui effacerait les premiers et qu'on pourrait appeler l'événementiel. Ben, je vais vous dire une chose, Malraux lui-même a rédigé le brouillon de ce livre sur son lit de mort. Il a appelé ça « L'homme précaire » où il dissèque, avec 30 ans d'avance, notre présent, livré au zapping, à la distraction et au sensationnel. mais il le fait surtout pour la littérature. Alors, pour en revenir à l'histoire de l'art, et pour montrer que ce n'est plus un paradoxe, mais que c'est devenu un paravent, c'est quand cette histoire aborde au rivage du contemporain, si vous voulez, quand elle sort de sa période de compétence. Alors cette histoire ne peut subsister qu'à condition de ne pas définir son objet, ce dont elle serait d'ailleurs bien empêchée, parce qu'avec l'art conceptuel, il n'y a plus d'objet. Définir, c'est toujours circonscrire et séparer. Mais comment séparer? Le créateur a célébré, du créatif à rétribuer. Où va-t-on mettre le bon périmètre? Autrement dit, qu'est-ce qui n'est pas arty, A-R-T-Y, hein, le mot anglais, qu'est-ce qui n'est pas arty, hearty, dans notre environnement? Ah, il faut faire attention au vocabulaire, vous savez. Aujourd'hui, un entrepreneur est un aventurier. Un tour opérateur est un vendeur de naufrages sur une île déserte. Un auteur à succès présent sur tous les écrans est un rebelle, ou même mieux, un sulfureux. Et un homme politique digne de ce nom commencera toujours par s'insurger contre le politiquement correct. Bon. Eh bien, aujourd'hui, un pâtissier, un coiffeur, a fortiori un grand couturier, sont des artistes à part entière. Et malheur à celui qui leur dénie ce titre de noblesse. Le problème de l'art aujourd'hui, et c'est ce que Baudrillard disait fort justement, c'est qu'il y en a trop, et donc il n'y en a plus. Mieux que cela, les valeurs traditionnelles attachées à la figure de l'artiste, la singularité, l'authenticité, la créativité, l'innovation, eh ben, ce sont devenues les valeurs de la société omnimarchande. L'artiste, le pauvre, ce n'est plus l'anti-bourgeois du XIXe siècle, dont parlaient Flaubert ou Baudelaire, parce que le bourgeois du XXIe est désormais artiste. Et ça devient vraiment difficile de distinguer les domaines quand souffle dans tous les coins le nouvel esprit du capitalisme, comme dit Boltanski. Un capitalisme devenu résolument et productivement et lucrativement esthète. La carte d'identité de l'artiste qui le faisait si singulier, qui en faisait de lui un individu à part, bah, elle traîne dans tous les magasins. La singularité, bah, elle est banalisée, c'est la griffe. L'écart à la norme, bon, bien sûr, c'est l'originalité, c'est la norme. L'unicité, mais elle est massifiée. L'autonomie, mais l'autonomie, c'est la définition de l'homme moderne par lui-même. Autrement dit, à l'historien, au sociologue, au critique d'art, la marchandisation de la différence leur enlève le pain de la bouche en volatilisant la différence partout. S'il veut encore se donner une différence tant soit peu identifiable, le chroniqueur ou l'historien d'art n'a pour cible possible que le milieu de l'art, entre guillemets, c'est-à-dire un microcosme très localisé à un ou deux arrondissements de Paris, est caractérisé par des rituels sociaux très particuliers, le vernissage, l'expo, la foire, le salon, le colloque. En fait, quelques arrondissements, non seulement de Paris, mais je dirais du monde entier, puisque l'International Art et chez lui partout. Alors, s'il veut vraiment prendre le taureau par les cornes, notre historien de l'art, il va découper dans l'océan des biens manufacturés qui nous arrivent de partout, il va découper dans cet océan un archipel, une catégorie de trucs mis en vitrine, reconnaissables à des signes qui ne trompent pas. lesquelles? Eh bien, seront appelées œuvres d'art, ou plutôt, parlons comme il faut le faire, seront appelées moments d'un processus créatif, l'ensemble à l'instant T des machins, 1, qui ne servent à rien, 2, qui coûtent excessivement cher, et 3, qui circulent exclusivement dans un milieu d'initiés plein aux as, le monde de l'art. Cette définition, elle va vous sembler un peu rustique, mais elle a au moins le mérite d'échapper à l'arbitraire des goûts et des couleurs, hein, parce que ce sont des signes reconnaissables par tout le monde. Une histoire spécifique était possible tant que l'art, selon le mot de Paul Klee, était une faille dans le système. Mais quand c'est l'expression concentrée du système lui-même, en clair du capitalisme financier, l'histoire de l'art relève ou d'une sociologie générale ou de la rubrique économie. Et alors, pour oublier et faire oublier cette évaporation dans un état un peu gazeux, eh bien, on recourt à l'autorité d'un mot fastueux, transcendant et suprêmement nuageux, l'art, avec un grand A. L'art. L'article défini, qui est une rêveuse en tourloupe, laisse un peu perplexe. Parce qu'enfin, il existe une histoire des religions et une histoire des sciences. Est-ce qu'on prendrait au sérieux une histoire de la religion ou une histoire de la science? On pourrait parler du fait artistique, comme le suggère Michel Melot. On pourrait avoir la prudence de parler d'une histoire du fait artistique, comme il y a une histoire du fait religieux, alors on prendrait moins de risques. Sans lever pourtant toutes les objections. Et notamment, sans qu'on puisse échapper à la question que ne se pose pas M. Ernst Gombrich, célèbre historien de l'art, quand il proclame que l'histoire de l'art n'existe pas et qu'il faut faire l'histoire des artistes. Ah oui, très bien. Mais à partir de quand il y a eu des artistes et non plus des artisans? Et à partir de quand l'artiste devient un entrepreneur? Première question, 16e siècle. Deuxième question, 21e siècle. Et puis, de quoi peut-on faire encore l'histoire quand l'art, enfin, ou ce qui garde ce nom, renonce même au désir de faire illusion pour coller à la réalité, à l'immédiateté, à la vie, quand il est devenu coextensif, au fond, à toute manifestation de l'être occidental? Peut-on faire une histoire de l'art quand le monde entier devient un ready-made? Alors, où commence et où finit le territoire de l'art? Décidément, elle joue de malheur, cette histoire. Quand le mot avait un sens, celui traditionnel, du beau fait exprès, l'approche historique ne tirait pas conséquence parce que l'émotion esthétique, nous l'avons vu, elle se passe de millésimes. Elle n'a pas besoin de chronologie. Et quand l'approche historique fait sens, parce que les formes, comme aujourd'hui, deviennent témoins de leur temps, sans réussir ni même prétendre à s'en émanciper, le mot art perd tout sens assignable. Un jeu de cache-cache, en somme. Quand l'art est là, l'histoire n'y est pas, et quand l'histoire y est, l'art n'y est plus. Mais on va d'abord se demander, pour revenir à l'ami Malraux, si ce dernier n'a pas fait preuve d'un certain ethnocentrisme. D'abord, par le privilège, la survalorisation des arts visuels et plastiques. Cela, c'est un trait propre au monde occidental. Il est étranger à la plupart des habitants de notre planète. Pour un Africain, l'art, c'est d'abord la musique et la danse. Pour un Russe, je crois, c'est la poésie. Pour un Chinois, c'est la calligraphie et peut-être la musique. En tout cas, la mainmise du visuel sur la notion d'art, elle n'a rien d'universel. C'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle ce projet d'un humanisme émotionnel qui était destiné à faire la première religion réellement universelle, à réussir là où les religions révélées ont échoué, eh bien, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ce projet a échoué. Et il s'agissait de faire une religion œcuménique et laïque. Alors, il est vrai que les arts plastiques ont un avantage. Ils n'ont pas besoin de sous-titres et ils n'ont pas besoin de s'adresser à des gens qui savent lire ou écrire. Les arts plastiques, les arts visuels volent là où la littérature rampe et ils jouent à saute-mouton par-dessus les frontières, contrairement à l'art littéraire, qui est, lui, assujetti aux douanes laborieuses et lentes de la traduction. Les arts plastiques peuvent parler à tout le monde, y compris aux illettrés, pour la simple raison qu'ils sont muets. Alors, c'est fraternel, planétaire, conçu par Malraux, où le petit bonhomme des Cyclades dialoguerait en silence avec la selle de vélo de Picasso et la minuscule Vénus de l'Espugue, que vous pouvez d'ailleurs apprécier au Musée de l'Homme à Paris. Cette minuscule Vénus pourrait dialoguer avec un stabile de Calder. Elle était inspirée d'un très bon sentiment. Il s'agissait de répliquer à l'étanchéité des foyers d'humanité qu'avait vanté Spengler, le grand philosophe allemand, qui a été une référence majeure de l'entre-deux-guerres. Dans les années 20 et 30, tout le monde parlait de Spengler, l'auteur du déclin de l'Occident. Et pour le sombre visionnaire allemand, aucune culture ne pouvait tendre la main à une autre, chacune étant bientôt appelée à se diluer dans une civilisation baveuse et sans contour. Alors que chez l'inventeur français d'un culte d'élite dominateur et un peu trop sûr de lui, aucune étrangeté plastique ne devrait faire obstacle à une communion tous azimuts. Non que notre émotion puisse retrouver par empathie le sens de la Vénus de l'Espugue, celui qu'elle lutte au paléolithique pour le tailleur d'ivoire qui l'a extrait de l'informe. Non, cette identification affective serait un leurre, et on ne s'infiltrera pas dans le cœur d'un chasseur de mammouths ou d'un adorateur de Marduk en Mésopotamie. Cette Atlantide ne remontera pas à la surface. Nous ne pouvons voir les premiers arts ou les arts premiers que s'ils sont exhumés, réévalués, transfigurés par notre système de valeurs. Mais le seul fait qu'une telle annexion soit encore et toujours possible témoigne qu'aucune solitude n'est incommunicable. Les Shivas de la grotte d'Elephanta en Inde parlent une langue qu'on ne comprend pas mais dont on entend le son, ou plutôt une langue que nous pouvons traduire dans la nôtre, comme Gauguin ou Picasso assimilent un fétiche africain ou un masque nègre. Comment ? Eh bien, par le jeu des reprises et des métamorphoses, où s'affirmerait la parenté secrète de toutes les créations plastiques, souverainement unies par leur victoire commune sur l'éphémère et sur l'exotique. Eh bien voilà, c'était un projet magnifique, mais il a fallu en rabattre. C'est vrai que le Louvre s'est installé, sinon inculturé, dans les pétromonarchies iconoclastes, Mais le dialogue des cultures n'a pas pour autant progressé sur le fond. Disons que le culte des formes n'a pas fait le tour de la terre, comme l'a fait le culte du ballon rond. On peut se demander si cette issue un peu décevante n'était pas déjà incluse dans les prémices de ce musée imaginaire. Parce qu'au fond, quand on survole l'histoire et la géographie, on se prend à douter qu'il existe ce que Malraux appelait une part éternelle de l'homme, la création artistique. On en vient à douter que ce fabricant de fresques, de statues et de tableaux soit l'homme universel, chez lui sous toutes les latitudes. Donc, l'homme aurait partout et toujours voulu donner forme plastique à sa vision de l'univers, non ? Non. C'est seulement l'indigène européen à qui le concile de Nicée II en l'an 787 a délivré un nihil obstat pour fabriquer des images. C'est une vision occidentalisée que celle qui fait du geste de création le fondement d'une unité du genre humain. Non, parce que c'est un mot, la création, qui est venu tard dans notre culture parce qu'il a fallu passer par profits et pertes le deuxième commandement de Moïse. Tu ne feras pas d'image de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, dans les eaux ou sous terre. Ça, c'est dans Exode 24. Et même l'art chrétien, enfin celui qui ne répète pas l'art romain et qui ne commence qu'au VIe siècle sous l'empereur Justinien, il lui a fallu un millénaire pour se réconcilier avec la sculpture qui était un stigmate de paganisme. Rappelez-vous que pour beaucoup de pères de l'Église, les démons s'étaient réfugiés dans les statues. Et puis, souvenons-nous aussi de toutes les crises iconoclastes qui ont dévasté notre continent, à Genève, à Lyon, à Saint-Denis même. Et souvenons-nous du grand absent de cette fresque, l'islam tout simplement. L'islam, c'est le point aveugle chez Malraux. Il dit « Un pays sans sculpture ni peinture est pour moi un pays muet, d'où la faiblesse de nos relations avec l'islam. » Fin de citation. Faiblesse, oubli ou refoulement ? D'ailleurs, l'expression « les voix du silence », c'est une très belle expression, mais Malraux l'a prise chez Elifor, l'historien Elifor, où elle désigne les voix intérieures que nous n'écoutons qu'en nous, c'est-à-dire celles qui ont dicté le Coran incréé aux prophètes illettrés. C'est donc, au fond, pour parler de l'art islamique, qu'Elifor a utilisé cette expression. Et d'ailleurs, il a peut-être emprunté lui-même un passage de la Bible en hébreu, la voix de silence subtil, qui est celle de Dieu, de Yahvé apostrophant Moïse. D'où un grand blanc sur cette planisphère, le monde arabo-musulman, où la relation avec l'Éternel passe par de tout autre médiation. Et où loger l'Asie dans cet atlas des arts qui se veut être un tableau d'honneur ? Le Tao, la religion chinoise, elle se passe de créateur. Et elle n'a pas de place pour des Prométhées qui font et refont le monde pinceau en main. L'artiste, dit Malraux, n'est pas le transcripteur du monde, il en est le rival. Cette concurrence, un brin mégalomaniaque, n'a pas de sens pour la culture chinoise. Du moins, si l'on en croit Shi Tao et son traité sur la peinture, traduit par Simon Leys, hein, c'est un traité qui date de 1715, mais qui fait toujours autorité en Chine. Eh bien, pour ce peintre Shi Tao, qu'on appelait le moine citrouille amère, peindre un bambou à main levée, c'est pas s'opposer au bambou, c'est le faire pousser en son fort intérieur. Et François Cheng écrit « À l'orgueil de la conquête, l'art chinois oppose l'humilité de l'accueil. » Oui, dans ce monde-là, la création artistique, elle est accompagnement, accomplissement, épanouissement de l'énergie cosmique. L'artiste ne s'oppose pas à la nature, il entre en communion avec elle et son travail à lui n'est pas de défier l'univers, mais de le rejoindre de le laisser résonner en lui, de s'y abolir en quelque sorte, en faisant affleurer le souffle vital du cosmos sous l'écorce du prunus dont il veut reproduire l'image. Mais n'est-ce pas, nous aimons annexer, nous autres, ce qui ne nous appartient pas, à vieille habitude européenne. Et nous aimons arracher aux nébuleuses le champ des constellations. Fin de citation. Là, c'est une prétention, mais c'est aussi une vision à la Faust. Faust qui vend son âme au diable pour conquérir le monde. Une ambition occidentale et provinciale, et qui ne remonte pas plus haut que notre modernité tardive. Alors il est là, le Patakès. Aujourd'hui, en 2016 ou 2017, et sans doute en 2010 ou en 2020. Rarement l'art aura été dans notre système de valeurs plus sacralisé, plus encensé qu'aujourd'hui. Rarement l'artiste aura été plus respecté, entouré et porté au nu par l'establishment qu'à un moment où l'art s'est vulgarisé en publicité et perd toute singularité. À un moment où vous et moi, sans apprentissage ni formation préalable, ni même sans talent particulier, nous pouvons nous dire artiste et être cru sur parole. Malraux a donné aux plasticiens un prestige, une éminence quasi sacerdotale dans la cité. Une éminence qui ne leur était jusqu'alors reconnue que dans des micro-sociétés ésotériques ou marginales. Et cette éminence, elle s'est vue reconnue ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime un fort de juridiction, celui qu'avait l'Église, c'est-à-dire la capacité de n'avoir de compte à rendre qu'à ses propres tribunaux. Affranchi de toute obédience, l'artiste peut se regarder dans la glace comme celui qui ne se laisse enrôler par aucune cause, dicter sa conduite par aucun pouvoir, à ce qu'il dit. C'est l'anarchiste officiel, c'est le provocateur breveté, intouchable et souverain. Le clerc d'antan faisait ce qu'il veut, disons dans les limites du droit canon, l'artiste y fait ce qu'il peut. Ses seuls juges sont ses pairs, à ceci près qu'il a l'obligation de s'en distancier pour faire son trou à lui et trancher sur le voisin. On peut alors se demander si ce souverainisme sans foi ni loi n'est pas condamné à se mordre la queue, si la superstition du geste créateur, la survalorisation de l'authenticité n'a pas involontairement engendré l'hystérie expressive de l'époque, c'est-à-dire le droit, non, le devoir qu'a chacun de s'exprimer, d'exhiber son authenticité et sa singularité, ce qui fait que la création individuelle peut culminer en déjection, éjaculation et excrétion. C'est la merde en boîte de Manzoni, ou le canon à merde de Kapoor. Un monde où l'opération valorisante doit confiner à l'action directe, indicielle et sauvage, où l'attentat du 11 septembre à New York peut se regarder, Stockhausen l'a dit, comme, je cite, « la plus grande œuvre d'art jamais réalisée », disons, le stade suprême du happening, un body art à la puissance N, 3000 morts. Une femme, dit-on, fut récemment poignardée dans une foire d'art contemporain à Miami. Cela s'est produit au milieu des sourires d'un public moyennement intéressé, personne n'a réagi. Les visiteurs ont cru à une performance. L'art ne doit-il pas rendre la vie plus intéressante que l'art ? Et la mort violente ne fait-elle pas partie de la vie ? Vous voyez, faire du plasticien la plus haute figure d'humanité, libre de tout devoir d'apprentissage, c'est en faire potentiellement plus qu'un enfant gâté, un narcisse, à qui n'incombe qu'une seule tâche, se réinventer lui-même de saison en saison, pour surprendre le Pékin en produisant, peu importe comment, une info sous la forme d'un geste ou d'une proposition renversante. Et si le fameux n'importe quoi, à condition que ce ne soit pas de n'importe qui, était le point culminant de cette fabuleuse apothéose, si faire de l'art une activité autoréférentielle, destinée à des enclos autoréférentiels comme les musées, subordonnée à aucune autre valeur qu'à celle que cet art se donne à lui-même, est-ce que ça ne revient pas à le couper de ses sources vives, à le dessécher, à découper l'objet ordinaire en petits morceaux pour le rendre intéressant, c'est-à-dire inutile, donc vendable. Prenez un vélo, enlevez-lui la roue, montez-la sur un socle, mettez un guichet à l'entrée, amenez un critique et empochez à la sortie. Cela a été révolutionnaire en 1910, est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Et si un artiste qui n'est en dette avec rien ni avec personne n'avait plus grand-chose à donner? Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'avertissement formulé par Jean Cassou, un historien d'art aujourd'hui décédé, qui disait en 1960, devant le néoplasticisme géométrique d'un Mondrian, il y a là tout un puritanisme agressif dont il serait vain de méconnaître l'attrait qu'il exerce de par le monde, mais dont les effets artistiques ne peuvent être que nuls, la nullité étant la fin où aboutit l'esprit lorsqu'il se résout à n'aspirer exclusivement qu'à lui-même. 50 ans plus tard, eh bien on voit ce puritanisme abstrait et hyper-protestant qui a à voir avec les idées, non plus avec les formes, on le voit, cet art, soumis au plus concret de la valeur qui est l'argent, comme si cette version de l'art pour l'art n'avait plus d'autre issue que l'art pour l'or. Avec d'ailleurs le même vocabulaire en commun, celui du management d'entreprise, innovation, transgression, mobilité. Et ici commence, et je terminerai par là, l'ultime facétie. Et si André Malraux était le père putatif de Jeff Koons, et son livre « La monnaie de l'absolu », l'introduction à la monnaie comme absolu. Dans une civilisation religieuse est valeur tout ce qui se rapporte à Dieu. Dans une civilisation historique est valeur tout ce que la mort est impuissante à dévaloriser. Dans une société marchande est valeur tout ce qui coûte un peu et rapporte beaucoup. Et Venise, allez-y pour voir. Venise, la ville d'art par excellence, dénationalisée comme un port franc, comme l'artiste largué en parachute sur la Biennale, venu de nulle part et de partout, cette ville est devenue le showroom des grandes marques de luxe. Et dans ce nouvel écosystème, les installations s'apprécient comme des signaux météo, des signets d'éphémérides qui renseignent au mieux sur les cours de la bourse, en hausse, en baisse. D'ailleurs, cet art, à l'estomac si vous voulez, il exclut l'idée de développement durable qui s'applique désormais à tout, sauf aux créations plastiques. Ennuyeuse est la durée, captivant est l'éclat. Épousant l'instantanéité du capital postmoderne jusqu'à en devenir la pointe avancée et la tête chercheuse, l'art business a fondu dans l'air du temps comme un symptôme parmi d'autres. Un actif parmi d'autres. En minéralogie, on appelle pseudomorphose et non métamorphose le remplacement subreptice d'un minerai par un nouveau, mais qui garde la forme de l'ancien. La composition chimique intérieure a changé, non l'aspect extérieur. On continue de parler d'art, mais on ne dit plus œuvre, on dit travail. On ne dit plus métier, mais personnalité. C'est elle qu'une école d'art se propose désormais de former, et c'est devenu un métier en soi que d'apprendre à devenir ce qu'on est. Il faut aller à l'école des beaux-arts. Je veux dire qu'on apprend à devenir quelqu'un sans nécessairement faire quelque chose, et ce quelqu'un, ce peut être vous et moi, nous sommes tous artistes. Donc il est permis de ne rien montrer pourvu qu'on se montre soi. Quand les attitudes deviennent formes, ce fut un titre célèbre d'exposition. Et comme l'argent a décollé de la production de richesses matérielles, l'art visuel a décollé de la création de choses à voir. Ce qu'on met en circulation, c'est une idée, un commentaire, une intention, mais en réalité, peu importe l'idée ou le concept, l'important est de produire une info, c'est-à-dire l'inverse d'une probabilité d'apparition. L'artiste en vue perd la main, il quitte l'ancien monde des travailleurs manuels, celui de ses ancêtres artisans, pour devenir un recycleur du monde intellectuel, mais beaucoup plus apprécié que ses petits cousins, ses petits copains, journalistes, critiques ou philosophes, dans une foire qui a perdu la tête, une foire out of joints. 500 88, 500, écoutez, je ne sais plus comment le prononcer, 58 millions de dollars ou 588 millions de dollars pour un Ballon Dog orange de Jeff Koons, New York en 2003. L'école d'art, elle peine aujourd'hui à se distinguer de la business school et le marché des œuvres devient un marché de noms propres, où c'est la signature qui valorise et où la réussite consiste non à se faire un nom, mais à faire de ce nom une marque. La certification académique se retrouve médiatique, le demi-dieu de la Renaissance un performer et le génie romantique un génie publicitaire. La spéculation désintéressée a débouché sur le spéculatif avisé dont l'arbitre est le maillet du commissaire-priseur. Auquel cas, victime d'une hubris, d'un orgueil autodestructeur, l'art devient le boy scout du CAC 40 et le musée imaginaire, un bunker en Suisse ou Luxembourg. Adieu le jugement critique et place aux choses sérieuses, organisation du marché, formation des prix, stratégie marketing. Tant va la cruche au flux qu'à la fin elle se casse. Et quand nous répétons cet éternel cliché, l'histoire est tragique, nous pensons peut-être trop au bain de sang et pas assez au prix de réserve, trop au champ de bataille et pas assez aux maisons de vente, trop à Van Gogh, le suicidé de la société, et pas assez au plug anal de McCarthy. Alors Malraux était un farfelu, il avait le sens de l'humour, et les pieds de nez du destin n'étaient pas pour lui déplaire. Sans doute, j'imagine, il accueille là-haut dans ses appartements du ciel avec un sourire en coin l'idée qu'il aura finalement hissé sur le pavois M. Pinault et donné ses lettres de noblesse à l'entreprise LVMH en exaltant l'antidestin. N'en faisons pas non plus un scandale. Ne pas dénoncer, ne pas s'indigner, mais tout simplement s'amuser de cet humour objectif. Les occasions n'étant pas si nombreuses, on aurait bien tort de bouder son plaisir, et encore plus de se donner le ridicule de faire d'une énième facétie contemporaine une tragédie. Allez, on en a vu d'autres, et on survivra à celle-là. Je vous remercie.
C'était Allons au fait, une émission proposée par Régis Debray, réalisation Rafik Zénine. Réécoute et podcast sur la page de l'émission sur le site de France Culture.